Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir pour un live interview d'un boxeur professionnel à l'occasion d'un événement sportif qui va avoir lieu d'ici une dizaine de jours. Ce soir, je suis avec un membre de la team Farrugia et ça me tient particulièrement à cœur voilà, de représenter ce soir cette team parce que Tanguy Farrugia a été... On peut dire le premier à m'avoir mis un pied dans le monde de la boxe avec ma petite caméra. J'étais venu suivre à l'époque pour cœur de boxeur Gallus. Voilà, donc c'était déjà il y a un petit moment. Et puis après, j'avais eu l'occasion de refaire avec Marine. Et donc, ce soir, ben, Kelvin, je te salue. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es
Merci
content
beaucoup.
d'être parmi nous? Comment ça va?
Salut Jean-Charles, déjà, et bien sûr, je suis super content d'être parmi vous. Je voulais vraiment te remercier pour cette invitation déjà. C'est super cool pour me permettre d'être là avec toi. C'est parler boxe, c'est parler de moi et tout, de mon parcours. Franchement, c'est cool. Merci beaucoup.
On va aller droit au but. Tu es là ce soir parce que voilà, je disais, il y a un événement qui arrive d'ici 10 jours, hein, c'est ça? Ça arrive dans
Ouais, c'est
10
ça.
jours à peu près?
C'est ça, c'est ça. Bah ouais, dans 10, 11 jours même. Mais c'est ça.
Alors dis-nous un peu, ça sera quoi exactement cet événement?
Alors en fait, du coup avec ma team, la team Farrugia que t'as présenté, avec mon club, on organise du coup un gala de boxe, donc le 10 février, où je boxerai du coup. Alors il n'y aura pas que moi, évidemment, il y aura trois combats pro. Il y aura mon camarade et mon ami Ibrahim Fofana qui va boxer, et Nassim aussi, Amitouche, qui va boxer. Il y aura aussi des combats amateurs. Et donc voilà, on organise notre gala et je vais boxer.
Et je vous mettrai le lien de la billetterie, voilà, pour ceux qui sont dans le coin et qui aimeraient, ben voilà, assister à cet événement. Je trouve que c'est important, voilà, de aussi de permettre à des galas un peu plus modestes, hein, on va dire,
Ah,
de leur donner de la visibilité. Voilà, donner un peu de visibilité, c'est important de faire vivre, voilà, ces galas-là. Et alors, tu sais, j'ai parlé du cœur de boxeur avec Marine. Est-ce que tu te souviens de ça? T'as un souvenir ou pas?
je me souviens même de celui de Gallus. Et ouais, comme tu dis, ça fait un petit moment. Mais ouais, je me souviens plus celui de Marine, parce que j'étais plus là. Alors à Gallus,
Ouais.
j'étais déjà là, mais vous étiez parti, je sais plus où vous étiez parti. Mais ouais, je me rappelle des deux. Je me rappelle carrément des deux.
Mais moi, je t'ai cité Marine par rapport à toi, parce que justement, j'étais venu à la salle et
Ouais.
j'avais fait un plan de toi au sac. Et c'est là la première fois, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre.
C'est la première fois qu'on se rencontrait là, ouais, au cœur de boxeur avec Marie.
Ouais,
Et ouais,
c'est
effectivement,
ça.
j'étais au sac et tu l'avais mis dans l'intro de Box Attitude.
Ouais,
Bah ouais, je me
c'est
rappelle
ça.
une de tes premières intros d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, hein. Et alors ça fait à peu près combien de temps? Tu te souviens?
Ah, j'avoue, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais rien dire, mais ça doit peut-être faire 5 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu
Ouais.
plus, même.
Et alors, bah tiens, on va commencer par là. Toi, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu étais donc dans ce club avec Tanguy?
Alors, à ce moment-là, ça faisait combien de temps? J'avoue, puisque je me rappelle plus exactement de la date, mais moi, ça fait 12 ans que je suis avec Tanguy, que je suis dans cette salle. Donc, au Boxing Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, c'est là où on s'entraîne la team Farrugia. Donc, on est situé à Élancourt, dans le 78, en région parisienne, pardon, pour ceux qui connaissent pas. Moi, ça fait 12 ans que je suis là-bas. Donc, au moment de cœur de boxe avec Marine, si ça fait 5 ans, du coup, ça faisait 7 ans que j'étais déjà là-bas.
À ce moment-là, je crois, alors comme ça de souvenir, hein, tu étais amateur, mais tu devais passer pro, t'étais pas un peu dans l'entre-deux?
J'étais dans l'entre-deux. En fait, j'ai été longtemps dans l'entre-deux. C'est ça
Ok.
enfin, le problème, le petit hic dans ma carrière, c'est que j'ai été longtemps dans l'entre-deux. Parce que au niveau de ma vie en fait personnelle, j'ai beaucoup bougé, j'ai été à l'école, j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé en même temps, je suis parti
Ok.
vivre à l'étranger, je suis revenu en France, après il y a eu le Covid qui est tombé,
Eh oui.
j'ai eu un moment il y a eu la fédération française qui n'a pas voulu me donner ma licence, enfin qui l'a acceptée et après qui est revenu sur sa parole, enfin, sur sa parole, qui est revenu sur sa décision, donc
Sur l'engagement, ouais.
J'étais longtemps dans un entre-deux, en fait.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que c'était compliqué pour toi à ce moment-là, de, on va dire, un peu te décider de passer? Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce que j'ai l'impression de le voir chez beaucoup de boxeurs en France. De pas trop savoir si il faut y aller franchement en boxe pro ou rester encore en amateur. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est Sofiane Oumia. Tu vois, je sais pas si tu suis un peu sa carrière.
Si, je suis un petit peu. Un
Tu vois,
petit
moi
peu.
je trouve que c'est un peu le bon exemple de la du cas français, entre guillemets. Tu vois, sans être péjoratif, hein, j'ai l'impression que
Oh, bien sûr.
c'est révélateur.
Alors, moi, c'est pas exactement la même chose. Alors, évidemment, j'ai pas eu la carrière de Sofia Mounia, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu être pro. Parce que, par rapport aussi au style de l'école Farrugia, par rapport à mon style propre de boxe, j'ai toujours eu, je me suis toujours entraîné en plus avec des pros qu'avec des amateurs. Donc, j'ai toujours eu un style un petit peu plus professionnel au niveau de ma boxe qu'amateur. Donc, moi, l'amateur, ça a été vraiment pour m'habituer au combat. Si tu vois ce que je veux dire, pour m'habituer à la compétition, pour m'habituer à avoir un adversaire en face de moi et monter en niveau. Donc, moi, ça n'a pas été de réfléchir si je voulais passer pro ou amateur. Moi, c'était déjà fait dans ma tête depuis longtemps. Sauf que, en France, il faut un certain nombre de combats pour pouvoir passer professionnel. Il faut participer à certaines compétitions, avoir fait un certain nombre de rounds en 3x3. Un certain nombre de combats, pardon, j'ai dit rounds, mais un certain nombre de combats en 3x3. Donc, en fait, c'est tout ça qui manquait un petit peu. Il manquait aussi forcément un peu d'expérience. Et puis, comme je t'ai dit, au niveau de ma vie personnelle, ça a été un petit peu les montagnes russes aussi. Donc, en fait, c'est tout ça on va pas dire qui m'a mis des bâtons dans les roues parce que je regrette rien, mais qui a retardé un petit peu l'échéance, en fait.
J'en profite là pour remercier les personnes qui sont avec nous. Donc Robin qui te remercie de prendre ton temps pour participer avec nous ce soir.
Bah, merci, merci à
Anthony
vous d'être là.
qui te passe le big up. Et
Big up,
c'est
Anthony.
Real Vlogger qui dit que bah ça nous rajeunit pas. T'as dit 5 ans, 5 ans, je sais même pas combien d'années ça faisait. Voilà la première fois que je t'ai vu. Et
C'est clair.
n'hésitez pas à poser des questions à Kelvin. C'est intéressant aussi d'avoir vos questions à vous. Il n'y a pas de questions bêtes hein, ce soir. C'est voilà, on a l'opportunité d'avoir des boxeurs pros qui se prêtent au jeu de l'interview en direct. Alors voilà, si vous avez des questions et que je les trouve pertinentes, bah, je les ferai remonter. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc revenir un peu sur ce moment où tu prends ta décision de passer professionnel, mais en sachant que c'est compliqué. C'est qui autour de toi qui va t'aider à prendre les décisions? Est-ce que ça va être vraiment dans le cadre sportif, c'est-à-dire avec l'entraîneur, avec tes partenaires d'entraînement? Mais est-ce qu'aussi ça peut être des personnes autour de toi, ça peut être des amis, ça peut être peut-être de la famille qui vont t'aider à te conseiller? Est-ce que tu as eu des conseillers un peu à ce moment-là?
Alors, la première personne avec qui je parle de ma carrière et avec qui je parle de mes choix, c'est Tanguy, mon coach, Tanguy Farrugia. C'est avec lui que j'en ai parlé. À un moment, on va dire un gros creux dans ma carrière au niveau de mes envies. Je voulais plus du tout boxer en amateur, sauf que la France, enfin la fédération, pardon. Comme je t'ai dit, en fait, ils avaient accepté ma licence professionnelle et après ils sont revenus sur leur décision. Ça a pris 2 semaines, hein. C'est pas non plus un truc, tu vois, ça a été assez rapide quand même. Et donc moi, je voulais plus du tout boxer en amateur. En plus, j'ai pas envie de, enfin, je sais pas comment le dire sans passer pour dire qu'on se fait voler ou quoi que ce soit, mais je me suis beaucoup fait voler aussi. Enfin, en tout cas, je l'estime. Il n'y a pas que moi, évidemment. Donc ça m'a pas mal dégoûté. Je dis pas que le vol n'existe pas en professionnel, hein. Attention. Mais voilà. Mais en amateur, je me suis beaucoup fait voler sur des combats que je trouve un petit peu injustes. Donc, en fait, tout ça dégoûtait un petit peu. Pour la petite anecdote, je suis parti voir Tanguy. Je me dis, j'en ai marre. J'en ai pas marre de la boxe. J'en ai pas marre de m'entraîner. J'en ai marre de combattre en amateur. Je veux passer professionnel. Il m'a dit, bon, il faut qu'on fasse encore peut-être 5 combats amateurs pour voir un petit peu, pour aussi te remettre dedans. Et après, on va voir. Donc, non, pour répondre à ta question, le premier conseiller, c'était Tanguy. Après, évidemment, j'en parle avec ma famille, mais ma famille, elle suit un petit peu ma carrière. J'ai pas envie de dire de loin, mais tu vois, la boxe et le fait de se mettre des coups, etc. Pour parler un petit peu, ma mère, elle a accepté, mais elle me pose toujours. Là, par exemple, quand je lui ai annoncé le combat à la Médis, c'est la première fois qu'elle me dit, je veux venir.
Okay.
C'est la première fois, et ça fait bien 10 ans que je boxe, que je fais des combats. Et c'est la première fois qu'elle me dit de but en blanc, je veux venir. Donc je lui ai dit, maman, moi ça me dérange pas que tu viennes, mais tu vas me voir me prendre des coups et tu vas me voir donner des coups aussi à quelqu'un, tu vois. Et elle me dit, c'est ça qui me fait rire, elle me dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu mets pas de casque? Donc pour te dire que ma famille suit un petit peu ma carrière, mais tu vois, il y a des choses qu'ils comprennent pas et qui ne s'impliquent pas, en fait. Donc,
D'accord.
Si j'avais dit à ma mère qu'avant j'étais amateur, qu'avant les amateurs ils avaient des casques, après ils n'en avaient plus, et que là je suis passé en professionnel, j'ai des gants plus petits, les rounds sont plus longs, etc., etc. Tu vois, ma mère, elle va être à côté de la plaque, elle va me poser des questions, pourquoi toi tu mets pas de casque, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu... Donc non, ma famille proche m'a pas vraiment conseillé, mis à part mon grand frère. Mon grand frère, lui c'est, si tu te sens mieux là-dedans, vas-y, mais te prends pas de coups. Mon grand frère, c'est plus comme ça, ma mère, elle comprend pas. Donc le premier conseiller, vraiment, c'était tendu.
Je vais rester sur les proches qui connaissent pas trop, tu vois, qui sont pas trop avec toi dans les moments de boxe. Est-ce que quelque part, ça t'arrange pas aussi un petit peu dans le sens où, comme ça, t'as pas à penser à ça? Je sais pas ce que je veux dire dans le sens où, comme ça, t'es concentré sur ton combat et t'as pas à te dire, ah, oh, mais il y aura ma mère ce jour-là ou il y aura un tel, tu vois?
Alors, oui et non, parce que moi, ça m'a jamais dérangé. Tu sais, moi, j'ai jamais boxé chez moi, en fait. Là, ça va être la première fois que je boxe chez moi. Donc, avec, entre guillemets, mon public, mes proches qui sont là et qui peuvent venir, etc. J'ai toujours boxé à l'étranger, ou, enfin, pas forcément à l'étranger, mais ailleurs. Même si j'ai boxé à l'étranger. Donc, en fait, j'étais toujours, seul. Tu vois? Sauf mon tout premier combat amateur. C'est vrai, mon tout premier combat amateur, j'étais en région parisienne, à Vigneux, dans le 91, je me rappelle encore. Et là, du coup, j'ai pas mal, vu que c'était mon premier, j'ai pas mal de familles et d'amis qui sont venus me voir. Ça m'a donné beaucoup de force. Pour le coup, j'ai remporté ce premier combat pour la petite histoire. Je suis sorti du ring en mode Super Saiyan. J'ai regardé tout le monde de haut, j'étais comme ça. Mon frère, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi.
Ton
Donc, en fait,
frère, il est dans le monde des sports de combat, ton frère?
non, pas du tout, pas du tout.
D'accord,
Pas
d'accord.
du tout, mon frère, c'est un
Ok. Je
fouteux.
sais. Je salue Loli qui nous dit coucou, Eliès aussi. Et attends, juste parce que j'en profite, parce que voilà, Serial Blogger, il nous dit petite pression supplémentaire. Alors, est-ce que c'est le cas, le fait d'être à la maison? Est-ce qu'il y a une petite pression supplémentaire?
Franchement, non, c'est pas une pression. Moi, je suis content, moi. Moi, je suis content de pouvoir boxer. Après, non, je vais pas mentir, effectivement, j'ai pas envie de. Quand on joue un jeu, la victoire et la défaite, les deux sont possibles. Donc, pour le moment, en tout cas, je suis pas invincible, même si je m'entraîne pour. Mais donc, évidemment que je peux perdre, j'y pense pas. Je suis focus sur la victoire. Mais le fait de se dire que je reste un humain, je peux perdre chez moi, ça met peut-être une petite pression. Mais à contrario, le fait qu'il y ait ma famille, mes amis, des proches, des gens qui peut-être que je connais pas et qui vont venir me voir parce que plein de choses. Non, ça me donne de la force. Pour le coup, ça me donne de la force. Pour le coup, je suis content de pouvoir boxer chez moi, en fait.
D'accord. Je reviens un petit peu du coup à ce qu'on a dit précédemment. Tu as discuté beaucoup avec Tanguy, c'est ce qui t'a permis de prendre cette décision de passer professionnel. Comment ça se passe à ce moment-là? Question toute bête, hein. Bon, moi je suis bien sûr déjà au courant, mais pour les personnes qui pourraient nous suivre et qui connaissent pas du tout le monde de la boxe, ben c'est quoi un petit peu les démarches quand on passe du monde amateur au monde professionnel?
Alors, les démarches, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux parler d'admin
Tu
ou le fait?
nous fais vraiment en bref, tu vois. Moi, je sais que voilà, il faut envoyer son dossier avec les combats amateurs que tu as eu pour qu'on te valide. Là, tu nous as dit que tu as eu quelques difficultés, mais finalement, c'était passé. Mais après, donc concrètement, comment ça se passe? Bah, qui te trouve des combats? Tu vois, tous ces petits détails-là, tu vois.
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Pour un boxeur qui n'a pas eu une grosse carrière amateur, par exemple, tu citais Sofiane Oumia, lui qui est connu, qui a fait les JO, etc., qui était champion du monde plusieurs fois. Enfin, c'est une figure de la boxe en règle générale et de la boxe amateur. Lui, pour le coup, quand il est professionnel, c'est sûr qu'il a un manager, qu'il a un promoteur. Donc, en fait, c'est ces gens-là qui s'occupent de lui trouver des combats. Maintenant, pour les boxeurs avec une carrière un peu plus modeste, donc comme moi, quand on passe professionnel, il faut qu'on se trouve un promoteur, il faut qu'on se trouve un manager. C'est pas chose facile. Je parle pas trop des autres pays parce que j'ai pas visité tous les autres pays. Donc, mais en France, c'est pas chose aisée. Là, pour le coup, j'ai la chance d'avoir Tanguy avec moi. Tanguy qui connaît beaucoup le monde de la boxe. Tanguy qui a beaucoup de connexions. Tanguy qui connaît beaucoup de monde. Donc, en fait, c'est lui qui fait mon rôle de manager et de promoteur. C'est lui qui trouve mes combats. C'est beaucoup de bouche à oreille, en fait, de coach à coach. Ouais, j'ai un boxeur de telle catégorie enfin, on cherche un adversaire pour telle date. Donc, du coup, ça renvoie des messages entre coachs. Ah là, mon gars, il correspond. C'est dans combien de temps? Et ensuite, on se prépare, etc. Donc voilà, quand on devient professionnel, pour trouver des combats, c'est au début, quand on a une carrière modeste en amateur, qu'on n'est pas très connu, enfin, ou qu'on n'est pas connu du tout, voire. C'est plus comme ça qu'on va trouver des combats, c'est du bouche à oreille, c'est des relations, en fait.
Dis-moi maintenant, donc à peu près après le Covid, tu t'es mis à donc à faire à passer professionnel. Comment ça s'est enchaîné? Tu as été actif assez régulièrement, les combats se sont enchaînés. Comment ça s'est passé là depuis?
Là encore, ça a été un petit peu compliqué. Après le Covid, donc du coup, je suis passé professionnel. J'ai eu ma licence professionnelle. Le problème, c'est que moi, je suis une petite catégorie. Je suis en supercoq,
Supercoq, ouais.
plume. Ouais, c'est ça. Je suis supercoq, plume.
Ah, tu fais entre les deux. Donc
Ouais.
Naoya Inoue, tu le prends quand tu veux.
Je le prends quand tu veux. Non, pas tout de suite, quand même. Il faut rester lucide. Par contre, un sparring avec nous, un entraînement avec lui, moi, je suis chaud, j'y vais demain.
Ah, ça serait magnifique, hein.
Ah, ça serait magnifique. Franchement, j'y vais demain. Un combat, j'attends encore un petit peu, mais des sparring avec lui, demain, j'y vais. Là, je prends l'avion ce soir, j'y vais. Donc ouais, je suis entre super coq et plume. Mais mon dernier combat, je l'ai fait en poids coq.
Ouais.
Je suis
Ah, ça
descendu.
n'a pas été trop dur?
Ça a été très, très, très compliqué.
Ouais,
Et
j'imagine.
mon combat précédent, justement, c'est pour ça que je te dis tout ça, je l'ai fait en léger.
Ah ouais,
Donc,
ça fait un
monter.
écart. Ah
Voilà.
ouais.
Pourquoi je te dis
D'accord.
ça? Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai pas été actif tout de suite. Parce que vu que je suis une petite catégorie, en France, on n'est pas énormément, surtout quand on démarre en professionnel. Donc, en fait, il faut trouver des boxeurs qui matchent avec moi, donc qui n'ont pas non plus 10 combats, alors que moi, je commence. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué. On essaye quand même de faire un truc correct avec Tanguy. Donc ça a été compliqué de trouver des adversaires. En fait, après, sans parler des adversaires qui disent oui au dernier moment, ils disent non. Des adversaires qui disent non directement, en fait, parce qu'ils veulent pas prendre de risques ou j'en sais rien, j'ai pas les raisons et ça me regarde pas finalement. Enfin, je m'y intéresse pas. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup d'annulations de combat. En un mois, j'ai eu 4 annulations de combat.
Ah
Donc, en
oui.
fait, ouais. Donc, avant mon premier combat pro, je parle. Hein. Et finalement,
Alors
c'est pour
attends,
ça que
avant de te lancer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet intéressant, juste Robin qui te demande si physiquement le yo-yo, est-ce que c'était pas trop dur à gérer?
ça a été très compliqué à gérer. La perte de poids, elle était très, très compliquée. La préparation, ça a été dur. J'ai fait des sparring, j'avais aucun jus. Je me faisais rouler dessus. Hein. Je vais pas
Ah ouais.
mentir. Par contre, le jour du combat, en fait, j'ai la chance d'avoir une cut woman qui était dans le monde du fitness et du bodybuilding avant. Donc, en fait, elle a un petit background en nutrition, en diététique. Et donc là, c'est elle qui m'a vraiment sorti de la panade. On a beaucoup discuté, elle m'a sorti un petit programme nutrition qui m'a vraiment aidé. Donc, en fait, j'ai pu reprendre un petit peu de force, continuer à perdre du poids, mais prendre un peu de force. Je suis arrivé à la peser, c'était chaud, j'étais pas sûr de la passer.
Ah
Finalement,
ouais.
je l'ai passé. Je l'ai passé et en fait, bah, avec son aide, avec ses conseils, j'ai quand même eu de l'énergie pour le combat. Mais après, ça a été. En fait, c'était toute la préparation, toute la perte de poids qui a été très compliquée. Mais après, quand j'ai réussi à stabiliser un petit peu le poids, ça a été.
D'accord,
Et
d'accord.
par contre, après, je suis parti en cacahuète.
Ouais, bah
Après mon
forcément,
combat.
les excès, ouais, comme tu as tellement tiré sur la corde, après, ben,
C'est ça.
tu craques, tu lâches, et puis même le corps, en fait, on se rend pas compte, mais c'est un traumatisme, hein, ce que
Ouais,
tu
c'est
fais
ça.
subir à ton corps. Et derrière, ben, comme tu vis un trauma, tu vas forcément avoir envie de recharger la machine, et c'est normal, en fait, c'est de la mécanique normale. Psychologiquement, comment tu gères ces 4 annulations en 1 mois?
Ça a été dur, mais en fait, faut savoir que j'ai beaucoup confiance en Tanguy. Donc, ça a été très compliqué, en fait, surtout que j'étais en train de me préparer. Je commençais à me préparer. Tanguy m'appelle, il me dit, bon, finalement, ton adversaire, il a annulé. Pendant que je suis en train de courir ou pendant que je suis en train de m'entraîner, mon téléphone sonne, c'est Tanguy, je réponds, ton combat, il est annulé. Ah, là, j'ai plus envie de m'entraîner. Là,
Ouais.
j'ai envie de tout plaquer. Quand c'est la première, on se dit, bon, ça va. Enfin, ça va. Quand c'est la deuxième, ça devient chiant. Quand c'est la troisième, là, ça commence à monter un petit peu. La quatrième, j'avais envie de tout plaquer. La quatrième, j'avais envie de tout plaquer, mais je me suis dit, bon, je connais Tanguy, il va trouver un truc. Et j'ai continué de m'entraîner, mais ouais, psychologiquement, c'était un peu compliqué, en fait, 4 annulations
Ouais,
en un mois.
j'imagine.
Et puis surtout qu'il y a aussi l'incompréhension. Moi, je commence en professionnel, j'ai pas de combat. Les mecs, je me demande pourquoi ils refusent, en fait. Il y a un mec de zéro combat qui arrive, il est inconnu au bataillon, parce que je suis pas connu. Il y a des boxeurs qui me connaissent, évidemment, dans le monde de la boxe, mais le monde de la boxe est très petit aussi. Donc dans ce monde-là, peut-être que mon nom il résonne un petit peu, mais je suis pas une grosse tête. Et quand je parle du monde de la boxe, je parle de la monde du monde de la boxe en région parisienne. Je pense que plus loin, on me connaît pas. Donc il y a cette pardon, incompréhension aussi, ce truc où on se dit bah la boxe business c'est vraiment nul pour pas dire un autre mot. Où on dit les mecs en fait ils veulent tellement avoir une carrière vierge de défaite qu'un Français qui même inconnu qui potentiellement, je pense que je fais pas peur quand je suis pas connu. Ils refusent de m'affronter parce que je suis un Français qui savent pas sur qui tomber. Enfin, ils savent pas sur qui ils vont tomber. Ils peuvent faire prendre un autre boxeur qui vient de je sais pas d'où avec un palmarès super négatif pour ne pas
Bien
avoir
sûr,
de risque.
bien sûr, bien
Donc,
sûr.
tout ça qui se mélange et tout ça qui énerve un petit peu.
Une question intéressante. Sur combien de rounds tu es actuellement? Et avant de nous donner la réponse, on va dire un petit mot sur ça. En fait, un boxeur, il a quand il commence sa carrière professionnelle, il a au début c'est 4 rounds, et après il monte 6 rounds, 8 rounds. 10 rounds, c'est pour un championnat de France. 12 rounds,
Exactement.
c'est pour un championnat international. Alors, sur combien de
Exactement.
rounds tu es toi aujourd'hui?
Alors moi, mes combats précédents, je les ai fait sur 4 rounds,
D'accord.
parce que j'étais sur mes débuts. Et là, du coup, sur le combat qui arrive, normalement, je suis en 6 rounds.
D'accord. T'es à combien, c'est ton palmarès, c'est quoi aujourd'hui?
Alors là, ça va être mon troisième combat. Et donc, du coup,
Ok.
j'ai deux combats. Et j'ai une
D'accord.
victoire, une défaite. Enfin, une défaite, une
Ok.
victoire plutôt.
Ouais, d'accord. Défaite, c'est Bernard Hopkins qui a commencé comme ça. Il a commencé sa carrière par une défaite, si je ne dis pas
Eh ben, je prends la comparaison, je me dis c'est cool.
de bêtises. On te souhaite
La même carrière.
la même carrière,
Ça serait
exactement.
cool.
Tout à l'heure, tu as parlé de ta catégorie de poids, les super coqs, mais aussi les plumes. Donc voilà, toi, tu dirais que tu es entre les deux. C'est ça, vraiment,
Entre
là
les
où
deux,
tu serais au
ouais,
top?
je suis vraiment entre les deux. Parce qu'en
Ouais.
amateur, alors, excuse-moi, pardon, je t'ai coupé.
Non, vas-y, vas-y, réponds. J'ai pas oublié ma question, t'inquiète.
Ok, parce qu'en amateur, du coup, moi, je boxais à moins de 56 kilos. La catégorie avant, alors ça a changé, je crois que ça fait 2, peut-être 3 ans que ça a changé. Maintenant, c'est les 57 kilos. Moi, quand je boxais en amateur, c'était les 56 kilos. Et donc, ça veut dire que j'étais toujours en dessous de 56. Et mon poids où j'étais le plus, on va dire, optimal, c'était 55,5. À savoir que les super coqs, la limite, c'est 55,3, quelque chose comme ça.
Okay.
Et donc du coup les plumes, la limite c'est 57 quelque chose, mais le début des plumes il est à 55, 55,7 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je suis vraiment entre les deux.
D'accord. Du coup, ouais, alors moi je reviens un peu sur le sujet que je voulais dire, c'était les plumes. Alors moi, je sais pas si tu suis un petit peu dans mes vidéos, j'en parle souvent, les catégories des plumes, je suis fan. Je fais la propagande de cette catégorie, je me régale. Et sur ces dernières années, ils ont fait des têtes d'affiche en Angleterre avec des plumes. Est-ce que toi, des fois, ça te titille pas un peu d'aller, parce que l'Angleterre, c'est pas si loin. Il y a des grosses têtes, des Legwood, des Warrington, voilà. Il y a des têtes là-bas, même l'Irlande avec Conlan, voilà. Est-ce que ça te titille pas un peu d'aller, voilà, voir un peu comment ça se passe là-bas, de peut-être prendre ton petit baluchon et d'y aller? Je sais pas quel âge t'as aujourd'hui. Est-ce que c'est un projet que tu pourrais avoir en tête?
Alors, c'est pas du tout un projet. Aujourd'hui, j'ai
D'accord.
32 ans pour te répondre.
Ok.
C'est pas un projet. Par contre, ça m'intéresserait d'aller faire des stages, d'aller faire des mises de gants, des entraînements avec ces types-là ou dans des pays étrangers. J'avoue, je suis retombé sur la vidéo d'un ancien adversaire que j'ai raconté quand j'étais en amateur. Et je crois qu'il est passé dans ta. Enfin, je crois pas. Je suis sûr qu'il est passé dans ta chaîne parce qu'il est avec
Ok.
Boxing Culture.
Ok.
Bastien Martinez
Ok.
et je suis retombé sur ses réseaux et j'ai vu qu'il était parti aux États-Unis. Ensuite j'ai vu qu'il y a d'autres boxeurs amateurs qui sont partis aux États-Unis faire leur expérience. Je te cache pas que là ça m'a fait un petit truc, là je me suis dit ah pourquoi pas faire la même chose ou faire un stage alors pas y vivre. parce que voilà, moi ici je travaille, etc. J'ai ma petite vie déjà,
Ta
mais
vie en France, ouais.
ouais, voilà, c'est ça. Donc tout quitter, partir là-bas, j'ai 32 ans, ça serait un petit peu, c'est pas impossible, rien n'est impossible. Et puis de toute façon, on dirait pas que j'ai 32 mais voilà, c'est pas un de mes projets. Par contre, y aller, faire des stages, rester, pourquoi pas un mois, ouais, c'est quelque chose qui me va très bien. Ouais. Après,
Alors,
je suis fidèle à ma salle, je suis fidèle à ma team. Donc, non, je prendrai pas mon petit baluchon, comme tu as dit, et partir là-bas et ne pas revenir. Non, mais faire des stages, des trucs comme ça, ouais, carrément.
après, donc là, il y a le côté, donc on a répondu à la question s'y installer ou alors y faire des stages. Après, il y a l'autre option, c'est d'y aller pour un combat, être appelé pour affronter un boxeur local, en sachant que là-bas, bah, ils ont des gros noms. Est-ce que
Ouais.
toi, ça serait, est-ce que ça serait un aboutissement d'aller te dire, d'aller chercher, même pas forcément un titre mondial, mais d'aller affronter un nom de la catégorie des super coqs ou des plumes en Angleterre, chez lui?
Alors, un aboutissement, non. Parce que pour moi, l'aboutissement, c'est la ceinture des champions du monde.
Tanguy
ouais, j'ai vu. On va
Farouja
organiser ça. Il est trop vif, Tanguy.
est là.
Donc un aboutissement, non, ça serait pas un aboutissement. Pour moi, l'aboutissement, c'est une ceinture des champions du monde. C'est ça, un aboutissement. Une grosse ceinture internationale. Ouais, ça, c'est un aboutissement. Boxe, c'est un nom. Non, c'est pas un aboutissement. C'est une étape sur un parcours.
D'accord.
Maintenant, effectivement, bien sûr, en toute humilité, bien sûr que ça me ferait plaisir d'aller boxer dans des pays comme ça, boxer un nom, boxer une tête d'affiche, même si moi-même je suis une tête d'affiche. Mais
Ouais, bien sûr.
ouais.
Bah, c'était ça l'idée, c'était d'être la tête d'affiche contre un nom. C'était un
Bien
peu
sûr.
ma question, c'était ça aussi.
Ah bah
Alors, vous avez
oui, bien
remarqué, j'ai eu une coupure de courant, hein, donc je tiens
sûr.
avec la batterie. Qu'est-ce qui s'est passé là, coupure de courant. Tant que j'ai de la batterie, on continue.
Donc ouais, non, ça serait cool, bien sûr, ça serait cool. Après, en respectant les étapes de ma carrière, évidemment, mais ouais, carrément, ça serait cool. Par contre, non, ça serait pas un aboutissement. L'aboutissement pour moi, c'est avoir une ceinture de champion du monde. Ça, c'est un
Ouais,
aboutissement dans le
d'accord.
monde de la boxe.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, affronter le champion.
Affronter le champion.
Ok.
Quand je serai prêt, quand j'aurai les armes, quand j'aurai tout, affronter le champion, ouais, carrément.
On connaît un petit peu, on sait qu'en France, quand on a un discours un peu trop comme ça, les gens sont assez sévères. Mais moi, je rappelle que c'est aussi le discours du boxeur, du combattant. Il faut avoir cette envie-là quand tu montes sur un ring. Pour moi, c'est absolument normal. C'est pour ça que j'encourage même aux boxeurs à oser dire, voilà, qu'ils sont ambitieux. C'est ça que j'aime et j'aime t'entendre dire ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des noms que tu suis? Alors, bien sûr, on a cité Naoya Inoue, mais c'est une évidence parce que pour moi, c'est l'un des visages de la boxe. Boxeur de l'année 2023, donc c'est évident. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms où t'aimes bien leur style, t'aimes bien leur personnalité? Ah,
Revient, non? C'est parti.
ouais, je sais pas ce qui se passe, c'est
Non,
c'est Marseille, c'est Marseille. Je suis pas à Cuba, je suis à Marseille. Et donc ouais, je disais des personnalités que t'aimes bien, des boxeurs. Tu vois, moi l'année dernière, Leg Wood, j'ai trouvé son année superbe. Tu vois, ce boxeur, ce qu'il a fait, les combats qu'il a fait, comme ce qu'il a donné sur le ring. Moi, j'ai beaucoup aimé Leg Wood l'année dernière. Mauricio Lara, qui a un plume que je kiffe. Tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des boxeurs comme ça qui t'inspirent, qui te motivent, que tu suis?
alors, est-ce qu'on parle forcément des plumes ou de n'importe qui?
Alors, d'abord, on va rester dans ta catégorie et après, on élargira si tu veux.
Dans ma catégorie, non, je vais pas te mentir, j'ai pas de boxeur particulier qui m'inspire vraiment, à part Inoue, mais comme tu l'as dit, Inoue, c'est une évidence. Il y avait un autre japonais que j'aimais beaucoup, mais j'ai oublié son nom. Il
En
était
quelle
champion
catégorie?
du monde aussi. Dans les plumes, il était. Enfin, dans les petites catégories, il était. Non, je crois qu'il était coq. Il était coq ou super coq. Mais j'ai carrément oublié son nom. Il avait boxé dans une soirée avec l'autre champion japonais qu'on appelle Tekken. Et lui, pareil, j'ai oublié son nom.
C'est pas Kazuto Yoka?
Je crois que c'était lui.
Kazuto Yoka, qu'ils avaient fait un combat de fou fin 2020.
Ouais, je crois que
C'est
c'était
lui?
lui.
Il est encore
Ouais.
champion du monde, Kazuto Yoka. Il commence à se faire un peu âgé, mais il est encore champion du monde aujourd'hui.
Ok, bah ouais, il y avait ouais, lui il m'avait marqué, il était vraiment très très fort. Mais sinon, à part ça, non, j'ai pas de nom particulier qui
Ok.
m'inspire, qui me motive ou non. Franchement, c'est nul de dire ça, c'est nul de dire ça, mais j'ai envie de te dire que Inoue, il a pris la place de tout le monde, en fait. En fait, Inoue, il a pris la couverture, il l'a mis sur lui, et en tout cas, moi, par rapport à moi, en fait, presque, il m'a fait oublier les autres. Après, pour le coup, là, son dernier combat contre Tapales, déjà, le combat, il était fou, mais j'ai envie de dire, Inoue, sans surprise, donc, en fait, je parle pas de lui parce que ça sert à rien, mais Tapales, il m'a vraiment... Tapales, c'est un super Saiyan. En fait, il m'a vraiment impressionné. Et pour le coup, c'est un boxeur que même s'il a perdu, mais il m'a étonné, en fait. Et
Non, non, il a été
vraiment,
très impressionnant.
il a été très, très fort. Donc, voilà.
Est-ce que tu es ce genre de boxeur? Pour moi, les boxeurs, j'ai remarqué, il y a deux catégories. Ceux qui, ils boxent pour boxer, et d'autres, la boxe, c'est aussi leur passion, et ils vont suivre les boxeurs, ils vont se lever aussi la nuit pour regarder des combats. Tu vois, tu fais partie de quelle catégorie, toi? Tu boxes pour toi, voilà, c'est ton truc. Et quand tu sors de la salle, tu penses à autre chose. Tu vois, voilà, tu coupes, tu vas regarder du foot ou, voilà, je sais pas. Allez, la Côte d'Ivoire pour la CAN. Voilà, je le place.
Moi, je suis
Ou
comme
est-ce
rien, je
que,
suis comme rien, donc
ou alors est-ce que tu vas vraiment suivre l'actualité de la boxe, tu vas suivre les boxeurs, quand il y a une affiche, tu vas t'intéresser, tu vas être, quelle catégorie, du coup?
Alors, moi, je suis passionné par la boxe, mais je suis plus passionné par le fait de faire de la boxe plutôt que de regarder la boxe. Mais pour le coup, ça sonne un petit peu comme un. Je sais pas c'est quoi l'équivalent de footix pour la boxe. Mais du coup, ouais, je suis un peu. Je suis beaucoup les grosses affiches, c'est vrai. Les petites
D'accord.
affiches, je suis pas forcément à fond dedans, sauf les boxeurs que je connais. Pour le coup, les boxeurs que je connais, là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, non, je suis pas non plus à fond dans la boxe. Enfin, je veux dire, dans l'actualité de la boxe.
D'accord.
Quand je sors de l'entraînement, je pense toujours à la boxe, mais je pense plus à moi qu'à la boxe en règle générale. C'est vrai.
Avant de t'emmener vers des questions un petit peu plus générales, tu vois, j'aimerais savoir, toi, à titre personnel, tu nous as dit, voilà, cette ambition d'être champion du monde, mais on va dire à plus court terme. Est-ce que tu as déjà un plan en te disant, bon, moi, je vais viser, pourquoi pas un titre de champion de France, puis après un titre EBU, donc c'est le titre européen. Est-ce que tu as déjà un plan comme ça dans ta tête?
Alors, j'ai envie de te dire que, comme je l'ai dit et je le répète, moi je fais beaucoup confiance à Tanguy. Donc en fait, tout ce qui est plan, tout ça, moi j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. C'est pas pour être humble, mais en toute humilité, moi je me concentre sur mes combats, sur mon combat à venir. En fait, je gagne mon combat, ça me fait marcher, ça me fait monter une marche. Le prochain arrivera, je gagnerai le prochain, ça me fera monter une autre marche, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au jour où Tanguy me dira, bon, bah, en fait, le prochain combat, c'est une ceinture. Le prochain combat, c'est un titre, et on ira, et là, je ferai étape par étape, en fait, je réfléchis comme ça. Là, j'ai pas tout de suite envie de me dire, alors, sans parler de l'ambition d'être champion du monde, évidemment, bien sûr que j'ai envie d'avoir des titres avant, des ceintures avant, mais j'ai pas envie tout de suite de me dire, ouais, là, tout de suite, je vise que le championnat de France, ou que le championnat d'Europe, parce qu'en fait, moi, dans ma vision et dans ma perception, ça voudrait dire qu'en fait, je zappe un petit peu tout ce qu'il y a avant et je vois plus loin avant de voir ce qu'il y a devant le bout de mon nez. C'est un objectif que je vois de loin, mais je me concentre pas là-dessus, je me concentre sur ce qui est devant moi d'abord.
Étape par étape, c'est
Exactement,
ok.
exactement. Moi, je réfléchis comme ça.
Ok. Là, je pense que, alors, vu ton âge, ton poids, c'est quand même le poids que tu vas conserver. Voilà, peu importe les échéances. Est-ce que tu prendrais quand même le risque, s'il y a vraiment un enjeu qui le mériterait, d'aller faire un écart, par exemple, d'aller chercher une ceinture, mais si jamais c'est dangereux, l'écart de poids, tu tenterais le coup ou tu te dirais non quand même?
Je pourrais tenter le coup. Si j'ai l'accord de Tanguy et si Tanguy me dit ouais, je te fais confiance, ouais, je pourrais tenter le coup. Comme je t'ai dit, mon
D'accord.
premier combat, je l'ai fait en léger. Hein.
Voilà, c'était le premier. Ah, c'est le premier où tu étais en léger.
Ouais, c'était le tout premier combat, on trouvait pas
D'accord.
d'adversaire. Je t'ai dit, j'ai eu beaucoup d'annulations. L'adversaire qu'on a trouvé, c'était un léger, c'était en Belgique, c'était contre un Belge. C'était pas ma caté. Je me suis dit, on y va, il n'y a pas de souci. Je mets des gants à la salle ou même dans d'autres salles avec des mecs qui font pas mon poids. La dernière fois, j'ai mis des gants avec alors Yves-Michaël Taha, je sais pas si ça te parle, ça doit te parler, je pense, qui a battu Hassan Hamzil. Il fait presque 10 kilos
Hassan
plus que
Hamzine, qui
moi.
était de la team solide, qui avait
Ouais,
participé à Rio 2016. Voilà.
c'est ça. J'ai mis les gants avec lui. Il fait presque 10 kilos de plus que moi.
D'accord.
Alors, évidemment, un sparring et un combat, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Mais j'ai l'habitude de tourner avec des poids plus importants que le mien, pardon. Donc, s'il y a une opportunité et que Tanguy il est d'accord, toujours Tanguy avant et qu'il est d'accord et qu'on se met d'accord et qu'il a confiance et qu'il me dit ouais, tu peux le faire. Même si le poids, ça va être compliqué, tu peux le faire. J'irai, il n'y a pas de problème. C'est pas,
Tout à l'heure,
je
t'as.
préfère rester dans mes KT. Je préfère rester dans mes
Oui,
KT.
bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça, c'est
Mais c'est
normal.
pas quelque chose. Oui.
Ouais. Alors, je vais poser une question un peu franche. Tu serais plus attiré par le titre si tu dois prendre ce genre de risque ou par le chèque? Tu vois, si jamais il y a vraiment un gros chèque à aller chercher et tu sors ta catégorie. C'est quoi le
Très honnêtement,
plus. Ouais, soyons honnêtes.
les deux.
Les deux.
Franchement, très
Voilà.
honnêtement, les deux. Les deux.
Ouais. C'est évident.
Je serais pas plus attiré par l'un ou par l'autre. Après, ça dépend le montant du chèque. Non, mais non, très honnêtement, les deux. Je suis pas du tout le style de boxeur et je ne sais pas de quoi demain est fait, mais j'espère ne pas le devenir en tout cas, qui va boxer juste pour boxer et qui va boxer en se disant, enfin, pas pour gagner en fait. Juste parce qu'il y a un gros chèque, je vais pas y aller en se disant, bah, je prends le chèque et si je gagne, inchallah. Non.
Ah ouais,
Moi, même s'il y a un gros chèque, bien sûr, j'y vais pour le gros chèque, on est complètement d'accord, mais je vais boxer pour gagner dans tous les cas. Donc, et si y a un titre, ouais, je sais que même me connaissant, je vais voir le titre en premier, mais derrière, je vais me dire, admettons que je perde, parce que encore une fois, je reste un humain, c'est possible, et ben j'ai quand même une belle compensation derrière. Donc c'est pour ça que je te dis que les deux vraiment.
Là, il y a une blague privée là. Hein. La moula pour acheter les balles de tennis du samedi. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait une blague privée, ça. J'ai pas la
Non, c'est parce qu'il fait des cours avec moi et des fois on fait des exercices avec des balles de tennis.
ref.
Et donc, ben ça va, on n'a pas besoin d'un gros chèque pour acheter des balles de tennis, c'est bon.
C'est des balles en or que tu veux utiliser, mais.
Ça
Alors, tout
reste
à l'heure,
compliqué.
T'as dit quelque chose tout à l'heure, c'était par rapport au fait, tu sais, les adversaires qui peuvent refuser les combats. Alors, il peut y avoir X ou Y raison, mais souvent, c'est, on va voir l'affiche, on va dire non, je vais pas le prendre. Donc, je vais t'emmener sur un sujet, c'est la protection de son palmarès et souvent des boxeurs qui veulent absolument rester invaincus. Donc, bah, toi, t'as connu la défaite. Donc, déjà, t'as plus de pression là de, ah, mais attends, il faut protéger ça. Peut-être que tu vas être à même à prendre un petit peu plus de risques. Mais est-ce que pour toi, c'est un problème, et notamment en France, de peut-être trop vouloir protéger son palmarès? Est-ce que ça bloque pas un peu des carrières?
Alors, en fait, il y a ça, c'est quelque chose à nuancer. C'est quelque chose à nuancer. Quand on commence dans le monde de la boxe professionnelle, évidemment, il faut apprendre son métier. Donc, je ne suis pas contre le fait de boxer des mecs avec des palmarès négatifs ou des mecs où on est sûr de sa victoire pour apprendre son métier progressivement. Je ne suis pas contre, donc, de la protection de carrière et de la protection de boxeur. Je trouve ça cohérent en fait. Par contre, en fait, il faut pas pousser de bouchon trop loin. C'est là où faut nuancer. Si tu prends par exemple, c'est ton premier combat et tu prends un mec qui a zéro victoire et qui a 40 défaites, on peut fermer les yeux. C'est ton premier combat, tu apprends, le mec il a quand même s'il a 40 défaites, il a quand même 40 combats. Donc c'est Et moi, je suis vraiment pas du style à cracher même sur ces mecs-là. Ça reste un boxeur professionnel. Il a perdu, certes, 40 fois, certes, mais il a quand même 40 combats. Et la plupart en plus de ces mecs-là, ils ont pas beaucoup de KO. Il y en a. C'est très commun qu'il n'ait pas beaucoup de KO. Sur 40 défaites, ils ont peut-être 5 KO. Donc franchement, c'est pas non plus. Ça veut dire que le mec, il est capable d'aller jusqu'au bout. il a de l'expérience, donc c'est pas non plus zéro risque. Même si on est à peu près sûr de la victoire, c'est pas non plus zéro risque. Donc apprendre son métier avec des mecs comme ça, je ne suis pas contre. Par contre, quand ça fait 10, 15, 20 combats où en fait il y a que des mecs comme ça ou des mecs voilà avec des palmarès un petit peu bizarres, si pour pas dire que négatifs. Là, je me dis, on pousse un petit peu le bouchon au niveau. Après, c'est de la boxe business, c'est du marketing, il faut faire vendre aussi. Il faut. C'est des choses que je comprends, mais là, je suis pas convaincu par ça parce que le jour où ils affrontent un vrai boxeur qui est là pour gagner, palmarès négatif ou pas, ou palmarès un peu ambigu ou pas, mais qui est vraiment là pour gagner, qui fait son combat, eh ben, il y a beaucoup de mecs comme ça en face, en fait, qui perdent des moyens, ils s'attendent pas à ça parce qu'ils ont eu que des sacs de frappe qui donnaient un ou deux coups. Et quand il tombe sur un mec qui veut t'arracher la tête, alors que t'as 10-15 combats, c'est plus la même histoire. Surtout en professionnel. Et malheureusement, en France, j'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ça, dans la protection de carrière à outrance, si je puis dire. Et en fait, je pense que ça fait pas du bien à la boxe, finalement. Ça fait pas du, en tout cas de la boxe française, de la boxe en général, mais comme je te dis, je parle pas trop des autres pays que je connais pas. De la boxe française, le jour où il tombe en tant que français sur un mec qui ont envie de gagner et un mec un peu plus sérieux, bah il tombe généralement sur un os et souvent il gagne pas en fait. Donc du coup en fait on n'a pas de grands champions et de grands boxeurs français malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est à nuancer. Pour apprendre son métier,
Exact.
oui je veux bien. Maintenant pousser le vice, là je me dis que c'est dommage.
Il y a Anthony qui dit que ça serait bien d'avoir un jour une interview d'un boxeur négatif. Alors, je trouve que c'est vrai que ça serait intéressant de donner la parole aussi à ce qu'on appelle les journémans. Et tu l'as bien expliqué justement dans ta réponse. C'est ce que j'ai apprécié. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire aussi parfois quand je parle de ces journémans, c'est que sans eux, la boxe n'existe pas. Sans
Ouais,
ces gars qui sont prêts à accepter des combats parfois à une semaine du combat, qui font des kilomètres pour aller boxer. Comme tu le dis, souvent, c'est des mecs qui n'ont pas pris beaucoup de KO parce que, en fait, c'est leur taf, c'est comme ça qu'ils nourrissent leur famille. Et donc, ils sont prêts
exactement.
à aller tenir les rounds et ils ont parfois même un art de savoir aller au bout des combats. C'est des gars solides. Et c'est voilà, ces journeyman, ils font aussi vivre le monde de la boxe et ils permettent à des boxeurs talentueux de se faire de l'expérience jusqu'à voilà qu'ils arrivent après à des niveaux un peu plus élevés, qu'ils affrontent après d'autres prospects et qu'ils grandissent. Donc c'est comme ça que fonctionne le monde de la boxe. C'est important de le rappeler et d'en parler et de respecter aussi ces gars-là, c'est les journeyman. Après voilà, tu as aussi les faire valoir, les prospects, mais c'est plein de différentes catégories. Et voilà, et tu as bien répondu à cette question. Et puis après, moi, c'était dans l'idée, donc voilà, plutôt la deuxième chose que tu disais, c'était un peu après on pousse trop loin ça et que des fois on a des galas où tu sais déjà qui, toute la carte, tu sais déjà qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est ça,
Et
exactement.
ça, tu donnes pas envie au public de payer. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que tu dis, ouais, autant rester chez moi parce que il n'y a pas vraiment tant d'équilibre dans les affrontements. Et c'était plus sur ce deuxième aspect. Et donc, tu as très bien répondu à la question. Merci d'avoir développé là-dessus. Maintenant, je vais t'emmener vers des questions un peu plus générales autour de la boxe actuelle. Ce que tu en penses, un peu ton avis et toi en tant que boxeur pro. Commençons par l'état de la boxe en France. Comment tu te sens, toi, en tant que boxeur professionnel en France? Est-ce que tu te sens respecté dans ton métier? Est-ce que tu te sens, voilà, est-ce qu'on te donne un petit peu la parole? Est-ce qu'on comprend ton métier? Voilà, toi, en tant que boxeur français.
Non, moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Comme je te l'ai dit, en fait, j'ai envie de dire, il y a un peu deux écoles ou deux types de boxeurs professionnels. Ceux qui ont eu une carrière, une très jolie carrière amateur. Donc, qui ont fait des championnats internationaux, qui ont fait des JO, etc. Et donc là, le passage en professionnel, il est un petit peu plus facile, même, voire beaucoup plus facile. Et les boxeurs comme moi, qui ont eu une carrière modeste en amateur, peu importe le palmarès, mais que moi je suis pas connu dans le monde amateur, ou quand je décide de passer professionnel, là c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas de sponsor. C'est très compliqué parce que les bourses sont très petites au début. Si on négocie pas bien ou qu'on n'a pas de relation, mais encore une fois, je le dis, je le remercie, j'ai la chance d'avoir Tanguy. Mais pour des boxeurs qui n'ont pas la chance d'avoir un Tanguy ou quelqu'un comme ça peut être très très compliqué, en sachant que en France, ça c'est sur le site de la fédération, j'en comprends rien du tout. pour un boxeur professionnel débutant, donc un 4 rounds, il est censé être payé 400 euros. Donc, en sachant que la licence coûte son prix, à peu près 200 euros, il faut payer les examens médicaux, etc., etc. Donc, en fait, le premier combat, on est en déficit.
Rien. Ah oui, c'est ça.
Voilà, donc, et si on n'a pas une belle carrière amateur, on n'est pas connu, donc les sponsors ne s'intéressent pas à nous, surtout si on n'a pas beaucoup de followers sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne aussi comme ça. Donc en fait, on a beau
D'ailleurs,
démarcher.
allez suivre Kelvin sur Instagram. Il y a déjà son Instagram dans la description.
C'est cool, merci. Donc en fait, c'est très compliqué quand on est inconnu du monde amateur, quand on est inconnu des réseaux sociaux, c'est compliqué d'avoir des sponsors, c'est compliqué au niveau de la bourse. On est obligé, comme je te l'ai dit, moi j'ai un métier aussi à côté, on est obligé d'avoir un travail à côté. Donc pour les entraînements aussi, le rythme de la vie, etc., c'est très compliqué. Pour un boxeur pro en France, c'est un peu compliqué, surtout au début. Après voilà, il faut monter dans la carrière, etc. Donc peut-être que ça débouchera sur quelque chose, que ce sera un peu plus simple par la suite. Mais en tout cas, au début, c'est très compliqué.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'arrivée du MMA en France, et c'était, il y a, c'est vraiment devenu populaire le MMA. Moi, je le
Ouais,
constate, hein, vraiment, c'est devenu populaire. Est-ce que pour toi, c'est bénéfique pour les boxeurs?
j'avoue que je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors, ni oui ni non, je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'était bénéfique pour le monde de la boxe? Je pense que c'est bénéfique en règle générale pour le monde du sport de combat. Je pense que ça c'est bénéfique. Surtout, je rebondis sur un truc parce que tu parles du MMA. J'ai remarqué qu'en fait, le MMA amateur en France, il est très bien. Enfin, il y a un très beau marketing au niveau du MMA amateur. Je parle en France, où les amateurs, ils ont le droit à des conférences de presse, ils ont le droit à des interviews. La plupart des galas, enfin, des galas qui ont un peu un nom, un petit peu, ils sont médiatisés. Je m'entraîne aussi dans une salle, juste pour la petite anecdote, je m'entraîne aussi dans une salle qui s'appelle le FBCL Center à Maurepas, où donc du coup, c'est un centre de sport de combat spécialisé dans l'MMA. Il y a aussi de la boxe anglaise, de la boxe thaï, etc. Et je te dis ça parce que là, c'était hier, non. Si, c'était hier où il y a eu l'Hexagone MMA, où Greg MMA a combattu.
Oui, j'en ai entendu parler, oui.
C'était il y a 2-3 jours, je ne sais plus exactement. Et il y a un de nos boxeurs, enfin, de nos combattants MMA du FBCL Center qui a combattu là-bas, en
D'accord.
amateur. Et donc, il était sur RMC. Alors il était en gala, Hexagone MMA. Du coup, en plus, il a gagné. Amine Jemel, il s'appelle, du FBCL Center. Il a combattu, il a gagné. Il était médiatisé. Il a été relayé partout sur les réseaux. En boxe, ça n'existe pas, ça. En boxe, ça n'existe pas. Donc, est-ce que le MMA pourrait faire du bien à la boxe? Très honnêtement, je ne sais pas. Après, pour le monde du sport de combat, je pense que oui, ça peut faire du bien parce que les gens, en fait, vont plus s'intéresser au MMA vu que c'est un petit peu plus médiatisé. Et donc, du coup, peut-être qu'ils vont se dire, ah, mais il n'y a pas que le MMA, il y a aussi la boxe qui existe et qui est là depuis plus longtemps et qui est là, qui fait du bien. Donc, peut-être que dans cette optique-là, peut-être que ça peut faire du bien.
Alors, je donne un petit peu mon opinion aussi. Moi, tu vois, avec mon regard un peu de média, j'ai l'impression que le MMA, ils sont arrivés avec des nouveaux codes. Et les jeunes qui font du MMA en amateur, ils ont ce truc de, comme il y a plein de médias qui en parlent, ils se connaissent un peu tous, ils se mettent en avant, il y a une émulation. Et tu vois, par exemple, la boxe amateur, la boxe olympique, hein, ce qu'on appelle la boxe olympique maintenant,
C'est
t'as
ça.
quand même des chaînes qui vont diffuser YouTube, hein, tu peux trouver ça sur YouTube. Je sais que la Fédération française de boxe diffuse quand même un petit peu sur leur chaîne. Il y a l'AIBA, alors maintenant c'est l'IBA, je crois qu'il s'appelle l'IBA
Ouais,
maintenant,
c'est ça.
qui diffuse pas mal.
Idéal avant.
Voilà, c'est ça. Mais ils sont quand même encore en retard sur la com. Ils n'arrivent pas à vendre ça. C'est-à-dire que tu peux quand même trouver accès, mais même moi, tu vois qu'ils suivent dedans. Mais des fois, je vois même pas passer les trucs, et c'est après que ah oui, il y a eu ça qui s'est passé, alors que c'est vrai que tu vois, le MMA, ça vient à mes oreilles, alors que c'est même pas
Exactement.
un truc que je suis. Ça vient directement.
Exactement.
Donc, j'espère que ces codes vont pousser un petit peu la boxe à aller vers un peu ces nouveautés. Maintenant, j'aimerais te faire, avoir ton avis, ton opinion, sur cette année 2023 de la boxe anglaise, qui pour moi, ça faisait, je sais pas combien de temps, j'avais pas eu une année comme ça. vraiment avec des affiches et tout, des shows, des stars, de l'argent, les Saoudiens qui ont mis de l'argent sur la table, qui ont organisé des événements. Toi, de ton regard à toi, est-ce que ça te donne de l'espoir? Est-ce que tu te dis que c'est un peu de la poudre aux yeux? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette année 2023?
L'espoir, c'est alors l'année 2023, comme je rebondis sur ce que tu dis, elle était vraiment cool, hein. On a eu des gros combats, des têtes d'affiche, on en a eu pour notre argent, si je puis dire. Ouais. Maintenant, est-ce que ça donne de l'espoir pour le monde de la boxe? Je suis pas convaincu parce qu'en fait, c'est malheureux de le dire, mais la boxe, en fait, c'est un sport tellement corrompu. En fait, déjà, c'est corrompu, et en plus, il y a ce truc de ce qu'on appelle la boxe business, ça rend bien. En fait, comme tu dis, c'est pas vraiment de la poudre aux yeux, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais ça envoie quand même de la poudre aux yeux, sauf que derrière, en fait, ça laisse dans l'ombre tout le reste. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu, pardon, compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à parler d'espoir. J'ai du mal à parler d'espoir parce qu'il y a beaucoup trop de corruption, il y a beaucoup de trucs comme ça. Même si les Saoudiens sont là, ils mettent de l'argent, c'est vrai, mais parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, avec des grosses têtes d'affiche, il y a de l'argent à se faire. Donc ils mettent de l'argent pour en gagner encore plus. Après, c'est très cool, attention, c'est du business, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que ça donne vraiment de l'espoir? Je suis pas certain.
Je voulais qu'on finisse sur ce sujet-là, mais je peux pas finir sur ces mots. En plus, je suis dans le noir et tout est symbolique là.
Ouais, j'ai fait plonger le truc.
Moi, je m'accroche avec Box Attitude, tu sais,
Non,
que la boxe.
après, pour mettre un petit peu de lumière dans mes propos quand même. Alors, de l'espoir, c'est un grand mot, mais par contre, là, je suis persuadé que la boxe, ça sombrera jamais. La boxe, elle va toujours être là. Le noble art, on pourra jamais le remplacer. En fait, bien sûr, avec de nouvelles têtes d'affiche, avec des gens un petit peu plus dans, enfin, des boxeurs un petit peu plus dans le marketing, avec les réseaux, l'entertainment et tout ça, ça peut augmenter, bien sûr, évidemment, on est d'accord. Mais après, donner de l'espoir pour que tous les boxeurs soient reconnus à juste titre, pour que, même par rapport à la boxe en France, etc., pour les boxeurs un peu inconnus, etc., c'est là où je suis pas sûr. Maintenant, pour le monde de la boxe en règle générale, non, ça va continuer à être ce que c'est, avec des Tyson Fury, avec des Crawford, avec des Inoue qui sont en train de tout casser. Des Shakur Stevenson qui arrivent, même si j'ai vu un truc bizarre, un peu pas, enfin un truc
Ouais, prendre
c'est
sa
un peu bizarre.
retraite. Bon,
Je sais pas
Lopez,
trop.
il a dit la même chose. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu la génération, tu sais, capricieuse. Un coup oui, un coup
Ouais,
non. Donc
il y a
bon,
moyen. Ouais.
donc on
Mais
verra.
bon, avec des mecs comme ça, avec des Ryan Garcia, mine de rien, qui font du mal à la boxe quand même, parce qu'il fait connaître ça
Oui,
à tout le monde.
bien sûr.
Et puis voilà, des mecs comme ça, ouais, ça va augmenter, il va y avoir de l'argent, il va y avoir des trucs à faire, etc., bien sûr.
Anthony Cabé, il dit des trucs intéressants. Donc, il aimerait bien qu'il y ait un boxeur français qui communique un petit peu à la Doumbé, qui use des codes actuels. Du coup, là, son deuxième commentaire, voilà, il dit que la boxe anglaise, elle est un peu en retard. Voilà, elle est un peu en retard, mais en même temps, comme tu l'as donné dans ta conclusion un petit peu, si je puis dire, c'était un peu une conclusion, c'est que la boxe, c'est aussi un sport un peu mythique. Et quand tu es un sport un peu mythique, c'est difficile de te changer totalement. Et moi, j'ai eu l'impression en 2023 que quand même, la boxe s'inspirait un petit peu des nouveaux codes, de le show, avec ces youtubeurs qui faisaient un petit peu leur truc. Alors, on est peut-être dans une période un peu bizarre parce qu'on est dans un entre-deux, mais ça a permis quand même un Crawford Spence. Et ça, c'est des vrais combats qu'on attend, tu vois. Donc peut-être qu'il faut un peu de la merde, si je peux me permettre, pour avoir des combats de prestige. Et il faut que nous, on accepte que voilà, c'est un juste équilibre entre les deux. Et après, je pense que la France va suivre aussi. Enfin, je l'espère, en tout cas, je l'espère. Et toi, pour revenir à ton cas plus personnel, comment justement tu utilises les outils de communication que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Donc, c'est-à-dire Instagram, TikTok, YouTube, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ou est-ce que c'est pas quand même trop ton domaine?
Alors, sans mentir, c'est à la base de la base. Moi, je viens pas trop de j'ai pas envie de dire de ce milieu-là, mais j'ai pas les réflexes des réseaux, etc. Maintenant, depuis que je suis passé professionnel, Enfin, j'ai mon petit frère, des potes qui m'ont dit, vas-y, faut que tu te mettes dedans. Il faut que tu fasses un truc sérieux. Donc, en fait, j'ai nettoyé mon Instagram pour qu'il fasse un peu plus professionnel, etc., etc. Ils m'aident d'ailleurs beaucoup, mon petit frère, avec sa copine. On va dire que c'est mes community managers. Ils m'aident à mettre des publications, etc., avoir un petit peu de contenu. J'ai créé un TikTok.
C'est ce qu'il faut.
J'ai créé une chaîne YouTube aussi. Que je sais pas encore quoi regarder dessus, mais je l'ai créé. Je suis plus présent sur Instagram. Et est-ce que je suis à l'aise avec ces outils? Un petit peu plus maintenant. Avant, c'était pas trop mon truc, c'est vrai. J'ai pas le
Parce
réflexe.
qu'on a 30 ans, c'est parce qu'on a 30 ans, gars, c'est comme ça.
C'est ça, c'est exactement ça. On vient pas de cette époque. Non, mais tu sais, ce réflexe-là, et puis, ouais, sans blague, on vient pas de cette époque, en fait. Donc, on faisait pas les choses en se filmant, en donnant tout à tout le monde, etc. On était plus discret. Moi, je me suis toujours entraîné à mon sac. Et bah, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se mettre dedans. Donc, en fait, ouais, j'ai eu du mal à avoir le réflexe de dire à quelqu'un qui est là, qui s'entraîne pas, tiens, prends mon téléphone, filme-moi vite fait pendant que je suis au sac. Au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Hein. C'était un peu. Ou même moi, aller prendre mon téléphone, poser mon téléphone pour me filmer. J'avais l'impression d'être. Enfin, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Maintenant, j'ai pris un peu le pli, j'ai un petit peu plus de facilité à le faire. Je pose mon téléphone, même en plus avec Tanguy, je connais un peu Tanguy, il se moquait beaucoup de nous. Bon, après, ça, c'est entre nous, on est comme une famille, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, les réflexes, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de facilité, j'arrive à entretenir mon Instagram, j'arrive à poster aussi sur TikTok. D'ailleurs, je poste un petit peu sur TikTok. Différents contenus, je parle de plusieurs choses, je montre un petit peu mes entraînements, mes sparring, ce que je fais pour. Alors, j'ai pas la prétention de vouloir motiver qui que ce soit, mais montrer un petit peu vraiment ce que je fais, ce que je vis, un petit peu ma passion. En fait, ma passion, mon sport et du coup mon métier, vu que je suis professionnel. Et donc, du coup, si je reçois aussi des messages des gens qui me disent, ah, j'ai envie de commencer la boxe, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Donc, ça fait plaisir, ça me pousse aussi à aller un petit peu dans ce sens-là des réseaux. Mais voilà comment j'utilise mes réseaux. Donc, je suis beaucoup plus présent sur Instagram. J'ai beaucoup plus de facilité avec ça. Je filme mes entraînements. Quand il y a quelqu'un qui est là, qui s'entraîne pas, qui fait rien, bah, je lui donne mon téléphone. Puis moi, je pose des petites vidéos d'entraînement, des choses comme ça. J'alimente un petit peu mon Instagram.
Mais c'est vrai qu'il y a une question de d'âge et aussi de personnalité. Moi, je vais te faire une confession. Tu sais, moi aujourd'hui, c'est grâce au réseau que je gagne ma vie. Vraiment, concrètement, c'est grâce au réseau que je gagne ma vie. Et pourtant, le nombre de fois où je prends mon téléphone, je me filme, je parle et j'efface la vidéo, je la mets même pas en ligne, c'est pour te dire. Alors que, à la base, c'est ce que je devrais faire. Je devrais faire ça tous les jours, en vrai. Mais il y a un truc où des fois, je suis là, non, je vais pas faire ça.
Ouais,
Alors que
voilà,
je sais que c'est le
exactement.
métier, tu vois. Et je suis le premier à dire au
Exactement.
boxeur, allez-y, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Mais je sais que parfois c'est difficile. Donc tu vois, même pour moi,
Je
c'est
suis
difficile parfois.
exactement, ouais, je suis exactement dans le même truc où je dis à mes petits qui s'entraînent et qui commencent dans la boxe, faites-vous un Instagram, mettez de la boxe, faites un truc sérieux, faites-le dès maintenant. Parce que moi, je le fais un peu tard et du coup, là, je galère à avoir ces réflexes, etc. Mais je suis exactement comme toi, pareil, j'ai mis une vidéo de moi en train de boxer, en train d'être au sac, en train de faire du shadow et je me dis non, je la poste pas en fait. Ouais,
Ah
j'en
ben,
ai
faut pas
10
se
dans
poser la
mon téléphone.
question. Il faut le faire et faut pas se poser la question.
Ouais,
Parce
carrément.
qu'en vrai, ça fait partie de la com, ça fait partie du taf. Écoute,
Exactement.
est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter? Donc, rappelle-nous la date de ton combat. On mettra la billetterie. Tanguy qui nous écoute, envoie-moi la billetterie. Mais je crois que Kelvin, tu l'as aussi la billetterie, donc
Je vais t'envoyer là.
tu pourras me l'envoyer. Et donc voilà, je vous mettrai le lien de ça si vous voulez vous prendre un petit billet. Donc rappelle-nous rapidement quand est-ce que tu boxes et puis je te laisse le mot de la fin.
Pour tous ceux qui nous suivent et qui sont là, déjà un grand merci. Encore un grand merci à toi, Jean-Charles, de m'avoir
Avec
donné
plaisir.
l'opportunité de parler avec toi. Vraiment cool, un grand, grand merci. Moi, du coup, je boxe le 10 février. Je boxe au complexe sportif de l'Europe qui est situé à Hennencourt dans le 78, donc en région parisienne. Il y aura plusieurs combats pro à cette soirée. Il y en aura trois, donc il y aura moi, il y aura mon camarade Ibrahim Fofana, qui est Marabout78 sur Instagram. Vous pouvez aller le suivre aussi. Il y aura aussi mon autre pote, Nassim Amitouche, qui fait son retour, qui est un ancien membre de l'équipe de France. Il y aura aussi, pardon, plusieurs boxeurs amateurs. Donc, des boxeurs amateurs qui vont commencer leur carrière, leur premier combat à cette soirée-là. d'autres un petit peu plus expérimentés. Il y aura des novices et des élites que vous pouvez voir sur l'affiche que j'ai mise sur mon Instagram. Je les ai tous notés. Donc, vous pouvez aller voir leur Instagram. Il y aura Mathias Potrin, il y aura Lies, il y aura Mohamed, il y aura du monde. Il y aura du monde qui s'entraîne avec nous. Vous pouvez aller voir leur Instagram. Ils sont sur mon Instagram, sur l'affiche du combat, vous pouvez aller voir. La billetterie, elle est en ligne. Jean-Charles vous la mettra
La
aussi.
remettrait, ouais.
Donc voilà pour le mot de la fin. Venez, venez parce que ça va être cool. On s'entraîne dur pour que ce soit une belle soirée, pour vous donner des combats que vous allez aimer, ou du moins on va tout faire pour. On s'entraîne dur pour. Donc voilà, venez, ça fera du bien aussi à la boxe, à des gens qui sont pour le moment pas sur le devant de la scène, qui n'ont pas encore toutes les lumières sur nous pour le moment, mais ça viendra. On va travailler pour. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Mon Instagram, il est quelque part. Je sais pas où il est, mais il est là.
Dans la
C'est
description, juste à
Kelmadjid.
mettre la
Voilà.
description. Il n'y a qu'à cliquer, il y a le lien.
Voilà. Et bah, cliquez sur mon lien, suivez-moi, ça sera cool. Donnez-moi de la force. Vous pouvez aller suivre aussi tous les autres boxeurs. Ibrahim Fofana, Nassima Mitouche, Mathias Potrin, etc. Tanguy Farrugia, la team Farrugia qui est sur Instagram aussi. Donc voilà, donnez-nous de la force. Venez nombreux le 10 février à Elancourt. Ça va être cool. On va tout faire en tout cas pour que ce soit cool. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Charles.
C'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao, ciao!